Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs pour m'avoir convié à ce partage d'idées sur une question épocale qui détermine notre avenir. Je remercie aussi Mathias d'avoir si bien déblayé la voie sur un certain nombre de questions dont je vais parler. Ce qui fait que peut-être à des moments, c'est bon, je vais couper parce que je risque de reprendre certaines choses qu'il avait dit. Je me réjouis de cette convergence d'idées qui contribue aussi à répondre à l'une des questions, si vous voulez, de départ, par rapport à des questions préjudicielles. Qu'est-ce qui fonde les spécialistes, les praticiens en sciences sociales à venir prendre le devant pour discuter d'une question technique aussi pointue que l'intelligence artificielle? On peut répondre simplement ce que les stratégistes civils disent aux militaires. La guerre est trop sérieuse pour être laissée aux seuls militaires. L'intelligence artificielle est beaucoup trop sérieuse pour être laissée aux seuls techniciens. Ce serait un péril des plus graves, et c'est par là qu'est sorti Mathias, à propos des menaces. L'intelligence artificielle et ses impacts constituent des phénomènes sociaux totaux et doivent faire l'objet d'une réaction, d'une mobilisation sociale totale. Et donc, c'est de ce point de vue-là que les praticiens des sciences sociales sont très fondés à jeter un regard à la fois préjudiciel en amont et consécutif en aval, avec au milieu l'action des techniciens. Bien sûr, c'est des décideurs, des régulateurs, etc. Dans cet esprit, donc, mon intervention va consister essentiellement à jeter un regard sur la manière dont l'Afrique est aujourd'hui en train d'aborder stratégiquement l'intelligence artificielle afin de dégager, à partir des enjeux, d'une liste d'enjeux où nous pouvons, devons aller, mais surtout, comment est-ce que notre abord de l'intelligence artificielle conditionne largement les enjeux. Et dans le principal enjeu sur lequel je vais insister, qui est stratégique et qui me semble nodal en tant que stratégique, c'est l'enjeu de l'abord. Parce que les enjeux, les conséquences, les impacts de l'intelligence artificielle en Afrique et pour l'Afrique dépendent largement de la manière dont l'Afrique aborde l'intelligence artificielle. Et ça, donc, c'est, si vous voulez, quelque chose qui se passe en aval, évidemment, mais surtout en amont. En amont de l'intelligence artificielle elle-même. Les enjeux en eux-mêmes, de manière détaillée, vont bien sûr concerner la défense, la sécurité, l'industrialisation, la violence des imaginaires, les criminalités, la militarisation de la psychosphère à partir de l'électrosphère, etc. On ne peut pas aller sur tous ces enjeux, comme disait encore Mathias en conclusion. Chacun de ces enjeux lui-même peut prendre 10 conférences comme celle-ci. Donc, je vais faire un tour sur le cœur de la stratégie africaine face à l'intelligence artificielle et à partir de là dégager 5 enjeux stratégiques. Et le cœur de l'intelligence, du positionnement, de l'élaboration et désormais de l'action stratégique de l'Afrique face à l'intelligence artificielle est résumé dans un document très récent. Il date de la fin juillet 2024. Et ce n'est autre que la stratégie continentale africaine de l'intelligence artificielle. C'est un document que nous devons tous lire, pas forcément parce qu'il est génial, mais il donne un cadre que nous pouvons améliorer, interroger, comme je vais m'efforcer de le faire. Alors, la stratégie continentale de l'Afrique définit 5 piliers ou domaines prioritaires pour l'Afrique face à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est engranger les bénéfices de l'intelligence artificielle. Je vais résumer rapidement. Deuxièmement, adresser les menaces liées à l'intelligence artificielle. Troisièmement, développer les capacités africaines dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quatrièmement,
développer les partenariats dans le domaine de l'intelligence artificielle. Partenariat public-privé à l'intérieur de l'Afrique, partenariat public-public entre les pays africains, partenariat public-public entre les pays africains, l'Union africaine et les partenaires globaux, partenariat public-privé ou privé-privé international. Et enfin, cinquièmement, promouvoir les investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc voilà les cinq domaines prioritaires. Mais il me semble qu'il y a une focalisation qui est très grande sur ce qui se passe ou ce qu'on doit faire en aval, et non pas tellement en amont. En tout cas, il me semble que l'amont est largement minoré. Et l'une des raisons, comme on le verra, c'est que l'Afrique est très dépendante quand il s'agit des idées, des systèmes de coordonnées avec lesquels il faut faire fonctionner les technologies, à partir desquelles on régule les technologies, la gouvernance, etc. L'Afrique est extrêmement dépendante. Et donc, lorsqu'elle est empruntée de ce point de vue, elle devient indigente du point de vue de son abord. Sa philosophie de l'abord de l'intelligence artificielle semble donc être celle-ci. La philosophie de cette stratégie, c'est que l'intelligence artificielle est là. Elle vient, elle monte en force. Comment est-ce que nous pouvons en tirer les meilleurs bénéfices et éviter, contourner, prévenir les menaces éventuelles? Mais là est bien tout le problème, c'est que les enjeux sont en amont de ces questions. Et pour bien comprendre, rappelons que comment fonctionne l'intelligence artificielle. Pour faire très simple, pour les plus avancés comme l'intelligence artificielle générative, nous avons d'abord les données ou les informations. Ensuite, ces informations font l'objet de calculs ou de réflexions qui simulent ou se substituent à la réflexion humaine. Troisièmement, à partir de là, sont générées des solutions, des décisions même, et voire des produits. Maintenant, pour les intelligences artificielles les plus avancées, à partir de ce moment, l'intelligence artificielle elle-même, elle s'améliore avec son propre travail. Il y a une dimension d'auto-entretien complexe qui fait que si vous posez une question à ChatGPT aujourd'hui, et vous reposez exactement la même question 3 mois plus tard, vous allez voir que la réponse est différente, nettement améliorée, plus structurée, plus élaborée, plus longue, plus grande. Donc, au fur et à mesure, alors ce qu'on appelle capital humain, c'est-à-dire la capacité des êtres humains qui travaillent à s'améliorer en travaillant, à produire plus et mieux par le travail, ça s'applique également à l'amélioration, l'auto-amélioration de l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est intéressant. Mais, donc ici, il y a donc des boucles récursives de ces étapes que je viens de décrire. C'est-à-dire que chaque fois que l'intelligence artificielle, les plus avancées en tout cas, chaque fois qu'elle fait ce processus, collecte de l'information, traitement de l'information, calcul, proposition de solution, voire de produit, elle revient sur son propre processus de fonctionnement et se met à l'améliorer. Ce à quoi il faut ajouter l'afflux d'informations qui viennent également aider à mieux éclairer la question. Vous pouvez le vérifier sur vos iPhones désormais. Lorsque vous posez une question sur WhatsApp, si votre WhatsApp utilise déjà l'IA, vous posez la même question aujourd'hui, vous revenez 3 jours plus, on vous demande, ok, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas assez d'informations, on vous donne une certaine réponse. On vous dit, si vous me donnez plus d'informations, je vais peut-être améliorer ma réponse. Et la réponse, l'amélioration n'est pas unilatérale entre l'afflux d'informations et son traitement. Il y a également une amélioration sur le fait que, ok, j'ai travaillé, voici le processus que j'ai suivi. Et comment est-ce que je peux améliorer mon propre processus? Donc, afflux d'informations, auto-amélioration des processus. Et donc, à partir de ce moment, il faut dégager le premier enjeu, qui est celui de l'information, celui des données. Et l'Afrique est extrêmement indigente, voire fait pratique l'auto-sabotage en matière de données et d'informations. Si vous regardez au Cameroun, il ne se passe jamais 5 ans sans qu'un ministère brûle avec beaucoup d'archives. Vous savez combien de fois on a déjà recommencé le CIGIPES, un certain nombre de logiciels de traitement des soldes, des fonctionnaires et agents de l'État, etc., etc. Il y a comme un processus de recommencement perpétuel. Et si vous voyez bien les archives nationales, leur indigence, ça vous montre bien à quel point nous sommes peu dotés en termes de capacité informationnelle. Or, l'intelligence artificielle, même la plus avancée, même la plus capable de produire des informations, se nourrit des informations. Celui qui est donc capable de nourrir l'intelligence artificielle et de la développer à l'optimum en amont, c'est celui qui a de véritables capacités informationnelles, de véritables capacités de collecte, de production, de computation des données. Et donc, la première question donc, qui se pose à l'Afrique, c'est, en termes stratégiques, quelles données stratégiques vont nourrir l'intelligence artificielle pour atteindre quelle finalité? Et donc, on passe au deuxième impératif, je vais essayer d'être bref également. Mais avant de conclure sur le premier, il y a donc un impératif de révolution africaine en termes de capacité, de production, de computation et d'orientation des données à l'usage de l'intelligence artificielle. En plus, il y a aujourd'hui des processus de bots informationnel, un peu comme vous avez des bots de chat, des chatbots, etc., qui ne peuvent eux-mêmes vous répondre à vos questions. Par exemple, sur la plupart des grandes institutions, il y a ce qu'on appelle FAQ, Frequently Asked Questions. Ce sont les bots, les chatbots qui vous répondent quand vous posez ces questions-là. Et si le bot n'est pas capable de vous répondre, il vous dit « je vais vous transmettre un humain ». Donc là, l'intelligence artificielle est encore limitée, notamment parce que la question que vous posez n'a pas fait l'objet de traitement ou qu'il n'y a pas de données disponibles pour répondre à cette question. La machine ne peut pas y répondre. On vous dit, on va vous transférer quelqu'un, etc. C'est ce que font les banques, par exemple, aux États-Unis. Si vous appelez pour votre carte de crédit, etc., il y a un certain nombre de questions auxquelles les chatbots peuvent répondre. Mais après, lorsqu'il est dépassé, on passe à l'intelligence humaine qui a des informations qui n'ont pas encore été inscrites dans, si vous voulez, les processus du chatbot. Donc, information, capacité de computation, de collecte, d'orientation d'information, capacité de traitement primaire. Par exemple, quand vous regardez, vous appelez toutes les entreprises comme Orange, MTN aujourd'hui, Camtel même, qui prétendent faire dans le chatbot, on vous dit voilà, on va vous répondre à telle question avant d'arriver à l'être. Donc vous voyez que c'est extrêmement élémentaire. Donc voilà, on est au niveau 0, au niveau 1, si on est parti. Alors, le deuxième élément, c'est les informations que vous les donnez sur la base de quelle priorité, sur la base de quel choix. Parce que nous dépendons, les informations viennent du Nord, viennent même de ceux qui, historiquement, ont montré de l'intérêt à nous soumettre à leur volonté. Et soumettre quelqu'un à sa volonté est un acte hautement stratégique. Et refuser de se soumettre à la volonté d'autrui est un acte hautement stratégique. La guerre, la stratégie relevant très souvent de la dialectique, voire de la dialogique des intelligences et des volontés. Et donc, si vous êtes dans la civilisation de quelqu'un, là nous sommes de façon prédominante dans la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, capitaliste, si nous épousons cette civilisation comme étant à la base des données, nous empruntons les données à cette civilisation qui a affirmé que nous ne sommes pas tout à fait des êtres humains, qui a affirmé l'intériorité de l'Africain, qui a affirmé, etc. Nous savons à quel point nous avons intériorisé cela au cours de nos formations diverses, etc. Il ne passe pas un jour quand on dit le blanc est fort. Donc, si on aborde l'intelligence artificielle en disant le blanc est fort, c'est la chose du blanc. Et donc, il faut épouser la civilisation du blanc. Il y a déjà là des enjeux statistiques énormes qui vont se refléter au niveau le plus spécifiquement technique de notre développement d'intelligence artificielle. Donc, les choix civilisationnels et les systèmes des idées. Le système des idées dominant aujourd'hui en Afrique, c'est le libéralisme que nous avons emprunté chez nos amis que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est l'individu, le primat de l'individu, plutôt que du lien social. Nous savons que les sociétés africaines, traditionnellement, ne fonctionnent pas comme ça. L'individu existe, mais l'individualisme n'est pas l'idéologie de base qui oriente tout. Donc, si nous développons et l'information, et son traitement, et son orientation sur la base de l'idéologie libérale, nous allons essayer de développer des économies basées sur l'individu, l'intérêt individuel, etc. L'argent comme première valeur, etc., etc. C'est avec ça que nous allons récupérer les informations qui viennent du Nord, de l'Occident, et les mettre dans notre intelligence artificielle, et nous-mêmes orienter notre intelligence artificielle, comme c'est le cas pour l'Union africaine. Elle est totalement indigente en matière d'idées, elle est basée sur le libéralisme, parce qu'elle est financée par des puissances libérales à plus de 70%. On sait très bien que la main qui donne est la main qui dirige. dans l'Union africaine fait ce qu'on lui dit. Donc sa stratégie ne peut rien faire en amont parce que son système d'idées est déjà dicté de l'extérieur. Il faut donc des systèmes d'idées alternatifs dictés de l'intérieur, des systèmes d'idées endogènes. Si vous lisez d'ailleurs, et c'est assez caractéristique si vous connaissez les débats, Mathias connaît très bien ce débat puisque parfois il lui arrive même de se quereller avec les adversaires, du point de vue. L'Union africaine, dans sa stratégie continentale, dit que l'intelligence artificielle devrait être Africa-centric. Le terme n'est pas neutre, mesdames et messieurs. Pourquoi Africa-centric et non pas Afro-centric? Il y a tout un corps de connaissances épistémologiques extrêmement poussées dans l'afrocentricité métathéorique. Il n'y a pas de, si vous voulez, de développement scientifique métathéorique plus abouti en ce qui concerne l'Afrique que l'afrocentricité métathéorique. Mais les Occidentaux n'en veulent pas. Et comme c'est eux qui financent la stratégie de l'Union africaine, l'Union africaine ne peut pas dire afrocentré ou afrocentrique, on va dire africa-centrique. Ce qui est une hérésie parce qu'il n'y a aucune théorie de l'africa-centrisme. C'est afrocentricity, afrocentrisme, etc. Donc vous voyez très bien les enjeux. Nous avons déjà perdu. D'ailleurs, nous sommes très faibles, les plus faibles du monde en matière de technique. Ce qui vient à un moment où nous avons choisi encore d'être non seulement faibles mais indépendants, en négligeant nos propres atouts. Je vais essayer de passer au troisième enjeu rapidement, qui est un enjeu cognitif. Lorsque nous partons de l'enjeu de choix de civilisation, le choix de système d'idées, nous tombons aux enjeux politiques et de profondeur historique. Nos enfants qui disent que le blanc est fort, mon fils est en train de faire un diplôme d'ingénieur, et il veut évidemment, c'est dans ces choses-là qu'il fait. J'essaie de veiller parce que s'il pense que le blanc est très fort, c'est lui qui a inventé l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même chose que s'il voit une propriété ou en tout cas une familiarité africaine, voire, comme dirait Mathias et ses amis afrocentristes, une origine africaine de l'intelligence artificielle de tous ses sous-bassements, à savoir les mathématiques, la géométrie fractale, le système binaire. Tous ces systèmes sont nés en Afrique. Quand on le dit aujourd'hui, on dit que les Kevin dérange, les afrocentristes dérangent, on ne veut pas de ça parce que c'est vrai. Si vous regardez sur cette table, nous avons la base de l'informatique. Vous la voyez, mais vous ne savez pas. C'est dans votre quotidien. Tous les jours, vous voyez des figures fractales. Un carré dans un carré dans un carré, c'est un système fractal. Regardez le vêtement de ce monsieur. C'est un système qui porte des figures de géométrie fractale. Regardez sur le dos, le toron, etc. Ces figures fractales sont là. Un triangle dans un triangle dans un triangle. La grande formule, c'est ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. C'est-à-dire que dans toutes les dimensions, c'est les mêmes lois de la nature qui s'appliquent. La géométrie fractale est partout en Afrique. Ce n'est qu'en que dans les années 1970 qu'elle est apparue en Europe. Elle existe en Afrique depuis des millénaires. Et on ne va pas seulement dire, comme on nous le reproche, de dire « Ok, c'est les Égyptiens ». Non, ce ne sont pas les Égyptiens. Les Africains pratiquent la géométrie fractale tous les jours. Regardez les vêtements de nos femmes, etc. Même quand c'est les Hollandais qui ont fait le wax, ou les Chinois, il y a toujours les fractales africaines là-dedans. Et donc, c'est à partir de la géométrie fractale que se développe l'informatique. Tout ce que Mathias a rappelé à partir de Boole, de Leibniz, etc., ça vient des systèmes binaires africains eux-mêmes dérivés de la géométrie fractale africaine, etc. Le binaire, quand vous avez la divination du fa, et les systèmes d'auto-reproduction, les premiers systèmes d'auto-reproduction, d'auto-engendrement du complexe, sont dans les techniques et les technologies comme le fa. Et c'est de là qu'ils ont été pris par les Arabes au Moyen-Âge pour être amenés en Espagne, de l'Espagne, c'est passé au reste de l'Europe jusqu'à Boole, Leibniz et le premier ordinateur. Vous ne vous y trompez pas. Et donc, par conséquent, si le jeune Africain qui pratique l'intelligence artificielle sait ça et travaille sur cette base, si notre intelligence artificielle elle-même, elle est nourrie par des informations qui disent que en réalité, l'intelligence artificielle et ses sous-bassements cognitifs ont une très grande familiarité africaine. Ce n'est plus la même intelligence artificielle que si on dit le blanc est fort, il nous a encore apporté l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la même intelligence artificielle. Et ce ne sont pas les mêmes capacités stratégiques, défensives, offensives, autres que les Africains, les jeunes Africains auront. Enjeu cognitif donc extrêmement important. Maintenant, quatrième enjeu, enjeu de contrôle augmenté et de dédoublement de l'IA. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer une autre IA au sortir d'ici. ce n'est pas seulement l'IA, mais c'est l'IDEA. Intelligence artificielle et intelligence ancestrale. IDEA. Dans les systèmes complexes, comme l'intelligence artificielle, il y a des variables d'état, des variables de dynamique, et puis il y a des variables de contrôle. Et en général, les variables de contrôle, c'est elles. Or, lorsqu'on examine la question du point de vue de l'épistémologie, la critique épistémologique de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on se rend bien compte que les savoirs qui président à la construction de la technologie sont des savoirs actuels qui sont précédés et surpassés très souvent par des savoirs alternatifs, souvent anciens, dans diverses cultures. Par exemple, l'intelligence artificielle ne vous dira pas comment maîtriser votre force. Elle optimisera votre capacité à utiliser votre force. Mais l'intelligence ancestrale va vous apprendre à maîtriser votre force, etc. La question de la maîtrise est fondamentale. Et donc, il va falloir rentrer dans notre intelligence artificielle et dégager quelles sont les variables ou les facteurs d'état ou de dynamique. Là, c'est tout le travail de l'intelligence artificielle. Et maintenant, y ajouter des variables de contrôle qui seront dégagées notamment de nos savoirs ancestraux. Nous savons, par exemple, après nos ancêtres pratiquement dans tous nos groupes et nos régionaux ici, qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est ce que disaient nos ancêtres. On suit le riche pour en bénéficier, mais on respecte l'homme, l'honnête homme. C'est pratiquement le cas dans toutes nos cultures. Mais aujourd'hui, avec notre libéralisme consumériste, nous avons pris ça et mis de côté. Ça nous interdit le contrôle de l'intelligence artificielle. Ça nous interdit le contrôle et la régulation de la performance. Les valeurs de régulation sont des valeurs culturelles. Elles ne sont pas technologiques. Donc, rentrer dans l'intelligence ancestrale pour dégager les variables et les valeurs de contrôle de l'intelligence artificielle, ça vous donne Artificial and Ancestral Intelligence, IDEA. Extrêmement important. Je vais passer également là-dessus. On pourra approfondir en discutant. Mais dès lors que vous recherchez donc des savoirs holistiques, c'est-à-dire pas seulement les savoirs technologiques, mais tout ce qui permet de mettre la technologie au service de vos intérêts stratégiques. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas de s'approprier l'intelligence artificielle. L'enjeu, c'est quels sont nos intérêts stratégiques, comment nous déployons-nous pour atteindre les objectifs qui servent ces intérêts stratégiques, et comment l'intelligence artificielle, entre autres outils, va nous aider dans ce sens. Si ce n'est pas ça, notre approche est fausse. Ce qu'elle est déjà dans la stratégie de l'Union africaine. C'est désolant, mais c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il faut réveiller nos enfants. Et donc, prenons un cas avec lequel je vais terminer. Cinquième enjeu stratégique, intelligence artificielle et ancestrale au service de l'industrialisation, qui est le plus grand enjeu économique de l'Afrique. Tout le monde en parle aujourd'hui. Évidemment, quand les afrocentristes en parlaient dans les années 60, tout le monde a tiré sur eux. Le président Félix Houphouët-Boigny disait qu'il faut qu'on aide les Africains à donner les matières premières aux Européens, parce que sinon les économies européennes vont tomber et les Africains aussi vont se retrouver en difficulté économique. Mais où est-ce qu'on a vu un pays qui s'est enrichi de cette façon-là? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, l'émergence, l'industrialisation, la transformation structurelle. Même les gouvernements les plus réactionnaires du continent sont dans ce vocabulaire. Il faut savoir qu'il vient d'un certain nombre de luttes sociales et intellectuelles. Ça n'a pas été facile d'imposer que l'Afrique doit s'industrialiser. D'ailleurs, ce n'est toujours pas admis. Personne à la Banque mondiale, j'ai parlé à notre compatriote qui était jusqu'à récemment le patron africain de la Banque mondiale, personne à la Banque mondiale n'envisage l'industrialisation. Ça n'existe pas dans les agendas. Le FMI est là pour faire la police financière derrière vous, contrôler votre but, n'a rien à foutre, excusez-moi l'expression, de votre industrialisation. D'ailleurs, moins vous vous industrialisez, plus vous serez endetté et mieux vos budgets seront contrôlés. C'est tout bénéfice pour ceux à qui vous voulez donner et donner si bien nos matières premières. Donc aujourd'hui, nous parlons tous d'industrialisation, de transformation structurelle. La transformation structurelle, c'est quoi? Il faut la résumer simplement. C'est le passage d'une économie du primat de la débrouillardise, d'une économie de débrouillardise, d'une économie de survie, de subsistance, à une économie de transformation et de haute productivité. De ce point de vue, on peut dire que la transformation structurelle et l'industrialisation sont synonymes. Donc nous voulons faire la transformation structurelle, mais si nous la faisons sur des bases libérales, nous n'allons pas y arriver. Parce que ça ne correspond pas à la maîtrise sociale de l'économie qui doit être la nôtre si nous devons transformer nos économies. Et donc, en plus de cela, il faut donc poser, installer le débat sur l'intelligence artificielle dans le cadre général que Mathias a rappelé, celui des technologies de la quatrième révolution industrielle. Les quatre principales de cette technologie, c'est la robotique, c'est l'impression en trois dimensions qu'on appelle encore la manufacture ajoutée, c'est l'Internet des objets et c'est l'intelligence artificielle. On sait que ces technologies vont détruire au minimum 47% des emplois dans l'agriculture, les industries et les services à l'horizon, s'il vous plaît, 2035. 47%, ça veut dire que la moitié des emplois que vous connaissez actuellement, les emplois que vous connaissez actuellement dans l'agriculture, l'industrie et les services auront disparu. Vous avez vu pendant la Covid, ce sont les robots qui allaient donner à manger dans les champs parce qu'ils n'étaient pas contaminables à la Covid. Et donc, imaginez qu'il n'y ait plus de femmes de chambre dans les hôtels. Ils seront remplacés par des robots. Il y aura évidemment moins de viols, mais il y aura aussi moins d'emplois. Comment on va faire de ces gens-là, de ces serveuses-là? Dans les restaurants, le service sera assuré, les serveurs, ce seront des robots, etc., etc. En 2030, un seul robot allemand ou japonais ou chinois sera capable de faire le travail de 30 employés industriels ou agricoles camerounais ou kenyans ou nigériens. Or, l'Afrique a une très grande masse de la population qui entre dans son âge reproducteur, son âge de travail, etc., etc. Qu'est-ce que vous allez faire de cette masse de jeunes Africains? Il faut construire des systèmes économiques qui vont empêcher que le robot remplace l'humain nécessairement. Parce que sinon, nous allons produire des humains qui seront des superflus. C'est ce que Achille Mbembe appelle le brutalisme. C'est-à-dire que notre société aujourd'hui libérale, le néolibéralisme produit des bruts, du brut, du superflu. Et l'être humain rentre dans le superflu. Donc ça produit beaucoup de masse, de matière brute. Et l'être humain est désormais assimilable à cette matière brute qui peut être excédentaire, qui peut être dispensable, qu'on peut massacrer, qu'on peut malmener, etc., etc. Et nous avons des sociétés qui sont très répressives à la base, des sociétés postcoloniales, dont l'idée du citoyen n'est pas que le citoyen doit être protégé, le citoyen doit être réprimé. Nos sociétés sont plus portées sur la répression que sur la protection de l'individu. Si vous y ajoutez le brutalisme néolibéral, dans un environnement où on n'a plus de travail, toutes les intelligences artificielles ne pourront rien pour vous. Au contraire, elles vont renforcer le caractère superflu de l'homme. D'ailleurs, c'est même la définition de l'intelligence artificielle. Elle tend à rendre l'intelligence humaine superflue. Donc il faut éviter, et pour cela, il faut des systèmes endogénistes, économiques, industriels, etc., basés notamment sur le capital humain africain. Je vais terminer par là. Le capital humain africain et l'approche endogéniste de l'industrialisation sont la seule solution d'optimisation stochastique qui est conforme également à la théorie économique dominante qui veut que on se développe mieux en faisant mieux ce qu'on fait déjà qu'en essayant de faire ce qu'on ne sait pas faire. Par exemple, vous connaissez Mobutu, le roi du Zaïre, il n'est même pas capable de produire suffisamment à manger en termes de manufacture pour sa population, mais le voilà en train de faire un programme spatial. Les Allemands l'ont escroqué, évidemment. Il n'y a jamais eu de programme spatial. Et quand il devait tomber, c'est le pain qui a manqué à Kinshasa. Il n'y avait pas assez de pain pour que les gens mangent à Kinshasa. La population et son armée se sont ralliés aux rebelles, etc. Donc, il faut mieux faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et si vous regardez en termes d'intelligence artificielle, moi je suis... la plupart d'entre nous sommes encore, même de nos sociétés, nous sommes encore, comme j'ai dit, au niveau zéro. Nos connaissances sont très élémentaires, nous ne sommes pas qualifiés. Or, il faut, pour réussir la transformation structurelle et l'installation des Africains dans une position de victoire stratégique face à l'intelligence artificielle et tous les enjeux de la complexité contemporaine, il faut que les Africains puissent mieux faire ce qu'ils font, qu'ils ne soient pas analphabètes, que le niveau de compétence de la population africaine, de la main-d'œuvre africaine soit augmenté. Si on va le faire sur des choses qu'on ne sait pas faire, ça nous prendra beaucoup de temps, nous serons battus, parce que de toute façon, ça va très vite. En revanche, nous pouvons mieux faire ce que nous faisons déjà. Et il y a environ 4 ou 5 domaines dans lesquels nous sommes très forts. En tout cas, pas en alphabet. Dans le domaine de ce qu'on appelle les traditions, donc j'ai parlé de l'intelligence ancestrale, il y a le domaine des traditions. Dans les traditions agroalimentaires, les Africains savent se nourrir. Il faut manufacturer désormais les produits de l'industrie traditionnelle africaine. C'est le concept de l'industrie tradition que j'ai contribué à développer avec le professeur Charles Binambi que je sers de tout là. Les produits de l'industrie agroalimentaire traditionnelle peuvent être manufacturés. On a fait des simulations, on se rend compte qu'un seul produit, si vous maîtrisez bien le, comme on appelle le namgon chez les bétis, les femmes bétis, ou le konongon chez les bassins, le bottom chez les douala, si vous exportez de manière à ce que chaque Chinois mange le menti portion par an, vous avez des revenus ou un chiffre d'affaires qui dépasse le budget du Cameroun. Ça, c'est un seul produit. On peut en développer 10 dans chaque pays africain. Le consommer d'abord nous-mêmes et avoir des niches à l'exportation. Il y a également les chaînes de valeur agro-phytopharmaceutiques. L'Afrique est le meilleur en termes de production d'alicaments dans le monde. Il n'y a pas d'égo. Les alicaments, les compléments alimentaires, etc. Tout ce qui concerne la santé préventive des Africains, ça fait. Lorsque nos ancêtres mangeaient, je ne sais pas si vous avez vécu avec vos grands-parents, moi j'ai vécu avec eux, mais quand ils finissaient de manger, quand ils finissent de manger, ils font quoi? Les femmes mangent le bitacola, moi quand je grandissais, les hommes mangent la cola. Pourquoi? Ils renforcent le système hypoglycémiant. La nourriture a apporté beaucoup de glycémie. Et donc ça fait augmenter le taux de sucre dans le sang. Pour le faire baisser, celui qui vient de finir de manger, il sait que le système, le sucre va se débrider, il consomme quelque chose d'amer pour aider son foie à mieux digérer et à stabiliser la glycémie. Ça, c'est de la santé préventive au repas, etc. Personne ne sait le faire mieux que les Africains. Ce n'est qu'un exemple parmi les millions. Il faut industrialiser ces exemples-là. Il y a également le domaine agro-phyto-cosmétique. Nos dames qui portent les cheveux, je dois d'abord dire que je n'ai rien contre cela, pour ne pas m'attirer la foudre de ces dames. Mais deuxièmement, pour dire, les Africains savent également fabriquer les cheveux artificiels, mais naturels, qui sont des bases naturelles. Pas le pétrole, par exemple. La plupart de ce qu'on appelle les mails, sauf les mails brésiliennes ou indiennes, qui viennent parfois des cadavres humains, ou des femmes qui ont vendu leurs cheveux, c'est du plastique. Or, nous savons désormais que le bananier produit ces fibres-là qui ont de meilleurs perruques. Et c'est déjà en cours de production. Vous avez des industries occidentales qui viennent ici tout le temps récupérer les matières premières, les transformer pour vos cosmétiques, mesdames, et vous les ramènent. D'ailleurs, le beurre de cacao, je pense quand même que les producteurs sont en Afrique. Alors, donc il ne s'agit pas de faire comme on fait. Il y a également, passons rapidement pour conclure, le domaine de l'héroïsme traditionnel, l'industrialisation de l'héroïsme traditionnel. Dans tous nos comptes au village, autour du feu, il y avait toujours la figure du héros qui sauve les siens d'un grand péril. Aujourd'hui, quand nos enfants sont devant leurs écrans, ils regardent des mangas japonais. Il n'y a pas d'histoire horrible. Alors que nous avons nos histoires qui montrent des héros qui sauvent leur peuple. Qui épousait la plus belle fille du village ou la fille du roi dans les contes africains? C'est le gars qui avait tué la panthère qui menaçait tout le village. Aujourd'hui, nos héros sont des voleurs qui détournent les fonds publics et se pavanent en nous narguant. Alors que dans nos traditions, le héros, c'est celui qui protège son peuple. Il faut revenir à cet héroïsme.